Making a Murderer, Grégory, l'arnaqueur de Tinder, l'affaire Bettencourt ou plus récemment Raël, les documentaires font partie de l'identité Netflix. Depuis sa création, la plateforme de streaming mise gros sur ce genre si souvent sous-évalué et le succès est au rendez-vous. Pour comprendre comment ils sont fabriqués, nous sommes allés à la rencontre de Dolores Émile, directrice des documentaires et des programmes de flux chez Netflix France. Je suis Thomas Desroches, journaliste pour Allociné. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Spotlight.
Moteur !
Parlons maintenant de cinéma.
C'est un scandale! Un scandale!
6, première.
Action!
Bonjour Dolores.
Bonjour.
Alors pour commencer, donc je vous ai présenté dans l'introduction comme directrice des documentaires et des programmes de flux chez Netflix. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus en détail à quoi consiste votre rôle?
Alors mon rôle est simple, c'est de commissionner des projets auprès de producteurs partenaires. Donc commissionner, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire aller à la rencontre de producteurs ou recevoir en fait des projets et de décider en fait de les lancer, de les mettre en production pour Netflix.
Et est-ce que vous pouvez nous revenir d'abord sur votre parcours? Comment vous êtes arrivée ici? Ce que vous avez fait avant?
Alors juste avant, moi j'étais directrice générale de Vice Media TV et Studio. J'ai fait ça pendant 5 ans. Donc, j'étais chargée des productions françaises, de la programmation et du marketing. Et avant ça, j'étais dans le groupe Énergie, pôle télé du groupe Énergie pendant 8 ans. D'accord. Donc j'étais directrice de la marque en fait, du pôle télé du groupe Énergie. Et sinon, j'ai fait des études de droit, droit français, droit anglo-américain des affaires. Je me suis ensuite spécialisée dans les médias et j'ai tout de suite été passionnée par les métiers de l'entertainment et plus particulièrement de la télé.
Mais du coup, vous étiez déjà très intéressé par les documentaires. C'était quelque chose qui vous aimiez avant d'arriver chez Netflix?
Ouais, en fait, j'ai découvert ça surtout chez Vice. C'est vraiment là où j'ai appris tout ce qui était gonzo journalisme, documentaire. Pour être très honnête, je pense que j'étais comme la plupart des gens. C'est-à-dire que je trouvais que les documentaires étaient un peu soit trop éducatifs, soit un peu historiques ou un peu la même manière en fait de raconter les histoires. Et c'est vrai que chez Vice Media, j'ai appris en fait à découvrir en fait le documentaire sous un nouveau jour. Et c'est vrai que c'est vraiment l'écriture qui nous vient beaucoup en fait des Anglais. Donc cette écriture en fait beaucoup plus divertissante, entertainment. Et c'est vraiment en fait chez Vice Media que j'ai exercé en fait et que j'ai appris auprès de beaucoup de réalisateurs comment en fait raconter une histoire en fait en divertissant les gens et comment faire en sorte que le documentaire soit consommé par des personnes qui ne viennent pas forcément pour du documentaire.
Tout à fait. Et je le disais aussi en intro, moi je trouve que vraiment Netflix a joué un rôle dans la démocratisation vraiment des documentaires en les rendant peut-être plus accessibles. On avait toujours cette idée que le documentaire est un genre déjà, comme je le disais, assez sous-évalué, mais aussi assez élitiste, qui ne concernerait qu'un seul public, qu'une partie de public. Et je trouve qu'ils ont un peu changé cette donne-là. Qu'est-ce qui, selon vous, fait un bon documentaire Netflix?
Un bon documentaire Netflix, je sais pas, je pense qu'il n'y a pas de formule. C'est vrai qu'on nous dit souvent qu'il y a une formule Netflix. Je pense qu'il n'y en a pas. Je pense qu'en fait, les bons documentaires Netflix, c'est avant tout des bonnes histoires. Et nous, c'est ce qui nous intéresse en fait quand on rencontre des producteurs ou des auteurs, des réalisateurs, c'est déjà en fait de voir si à la base il y a une bonne histoire. Est-ce qu'il y a une histoire qui a suffisamment de tiroirs, de rebondissements? Qu'est-ce qu'on raconte au-delà de l'histoire? Est-ce qu'il y a un sujet en fait plus global qui va vraiment en fait créer une connexion et personnelle et universelle auprès de notre public? C'est vraiment ça en fait. C'est que dans les premiers, ce que je dis toujours, c'est en 5 minutes. Si on vous pitch l'histoire, vous devez être intéressé, vous devez être captivé. Je pense que c'est vraiment ce qui fait le socle et la base en fait de nos documentaires, une bonne histoire.
Et donc je me posais la question, quelle est la première étape dans la fabrication d'un documentaire? Est-ce que ce sont les auteurs qui viennent vous proposer des sujets? Est-ce que des commandes sont possibles? Comment ça se passe?
Il y a un peu de tout. En fait, on est assez flexible dans la manière de travailler. Ça peut être un mail avec 5 lignes pour dire, voilà, il y a cette histoire. Est-ce que ça peut vous intéresser? Ça peut être un document beaucoup plus développé. Ça peut être nous, où on se dit, voilà, on a vu, on a un sujet, on pense qu'il peut être intéressant et on appelle, en fait, quelques producteurs avec lesquels on travaille bien en leur disant, voilà, est-ce que ça vous intéresserait, en fait, de chercher et de revenir vers nous avec un angle. Donc c'est assez souple et flexible.
Et donc quand le sujet par exemple est accepté, comment vous accompagnez les auteurs, les journalistes pendant le projet? en moyenne combien, par exemple, dure la production d'un documentaire? Est-ce qu'il y a aussi souvent des allées et venues? Enfin, vous savez, avec Netflix, les retours, comment ça se passe? Quel rôle, vous, vraiment, vous jouez pendant la production de ce documentaire?
Nous, le rôle qu'on joue, c'est vraiment un rôle d'accompagnement et de ping-pong. En fait, c'est un vrai. C'est pour ça qu'on parle de partenariat. C'est un échange pour essayer de rendre l'histoire la plus divertissante et la plus intéressante auprès de notre public. Nous, on connaît bien notre public. On connaît aujourd'hui la consommation aussi en non linéaire. Donc, on est là aussi pour servir ce que je dis de sounding board, en fait, pour le producteur. On regarde, en fait, on lit. Donc ça, c'est important. En fait, la première étape, c'est surtout l'étape d'écriture. Donc de se dire, voilà, déjà sur le papier, est-ce qu'on a une histoire, en fait, qui est divertissante? Est-ce qu'on a quelque chose, en fait, qui nous tient, qui nous intéresse? Et ensuite, quand on passe sur la phase de montage, c'est vraiment de regarder en fait, les différentes versions et de pouvoir faire des notes et pouvoir accompagner de manière assez simple et naturelle, en fait, à quel moment ce qu'on appelle drop, est-ce qu'il y a toujours de l'intérêt? Est-ce que ça mérite de est-ce que la musique doit être changée? Enfin, on est assez. C'est un process en fait qui est assez naturel. Et ce que je dis souvent, c'est qu'on met notre casquette justement d'abonnés en fait, de téléspectateurs, et pas une casquette de trop technique en fait. Donc bien sûr, on laisse cette partie-là aux producteurs parce qu'on leur fait confiance en fait sur cette partie très technique et pour vraiment en fait. Proposer en fait un produit qui soit artistiquement, journalistiquement au niveau en fait de l'exigence que nous on place. Mais après nous effectivement on essaye d'avoir ce regard de se mettre à la place vraiment du téléspectateur en fait, de regarder, de se dire voilà à quel moment on pense que on s'ennuie, à quel moment on pense qu'on la musique elle devrait nous emporter un peu plus. Enfin, c'est assez naturel en fait comme process.
Parce que quand on regarde les documentaires, on remarque aussi qu'ils reprennent les codes des séries avec des fins ouvertes à suspense. Et donc, je suppose que parfois, quand il y a des journalistes, des auteurs, ils ne pensent pas forcément à ça. Est-ce que si vous les aiguillez dans ce genre de code, c'est quelque chose aussi que vous...
Oui, tout à fait. C'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on maintient et qu'on continue à capter l'attention du viewer, en fait, à tous les moments. C'est de se dire toutes les 10 minutes, est-ce qu'il se passe quelque chose? Et effectivement, quand c'est des écritures sérielles, comment on s'assure en fait que la personne puisse venir au prochain épisode? Et c'est vrai que sur l'écriture documentaire, c'est plus difficile en fait que la fiction aujourd'hui. La marche en fait à monter pour aller sur un objet documentaire est beaucoup plus haute que pour la fiction, c'est la réalité. Et donc du coup, en fait, il faut vraiment l'exercice en fait est plus difficile et plus périlleux. Donc c'est pour ça qu'en fait on accompagne et c'est vraiment une démarche, ce que j'appelle d'humilité, en fait, de se mettre et de se dire que les gens n'attendent pas forcément cette histoire, n'attendent pas forcément de voir son documentaire. Donc comment est-ce qu'on va faire pour donner envie de voir et donner envie de rester surtout.
On parle beaucoup des algorithmes sur les plateformes de streaming. On sait qu'il y a un algorithme Netflix. Est-ce qu'il joue un rôle justement dans cette première étape de décision de sujet? Est-ce que vous avez est-ce que vous devez travailler et réfléchir en fonction de ça?
Pas du tout. En vrai, si l'algorithme faisait ce travail, on serait plus là.
Ah oui, c'est vrai.
Non, pour le coup, c'est vraiment l'algorithme, c'est vraiment un outil de personnalisation. Quand on est sur Netflix, ça rentre en aucun cas dans le choix des sujets. Aujourd'hui, on est Netflix France, une équipe et ici pour déterminer en fait les sujets qui selon nous vont réagir auprès de l'audience et le public français. Quelles sont les histoires qui ont marqué les gens? Quelles sont les histoires qui n'ont peut-être pas marqué les gens, mais qui vont les intéresser parce qu'elles ont une dimension universelle? Donc ça, c'est vraiment un travail en fait qui peut être fait que par la main de l'homme.
Existe-t-il au contraire des no-go, enfin des sujets où vous dites non, là on peut pas le faire, ou au contraire, est-ce que vous avez des préférences sur certains sujets?
Non, en fait, on est vraiment à l'écoute des partenaires, des auteurs, des réalisateurs. Des projets, moi je pense qu'il n'y a pas de no-go, il y a surtout des manières en fait de raconter les choses. Je pense qu'il y a, si on prend l'exemple des Rois de l'Arnaque ou même Bettencourt, nous on a eu énormément de pitch en fait sur la taxe carbone qu'on a refusé, Et celui qu'on a accepté, en fait, c'est parce que la manière de raconter était différente, parce que c'était pas sur la taxe carbone, c'était sur Marco Mouli, parce que l'angle était différent, parce que l'approche, en fait, était divertissante. Et on s'est dit, voilà, là, c'est une bonne manière de raconter cette histoire sans avoir la fiche taxe carbone qui peut repousser une certaine partie de notre public.
Ah, c'est intéressant. Du coup, il y a plusieurs auteurs qui vous envoient souvent des idées sur le même sujet.
Oui.
Quel est le sujet, par exemple, qui revient souvent ?
Il y en a plein, hein, franchement. Je pense qu'il faut regarder les news, que ce soit les true crime ou les affaires très connues, un peu politiques, scandales. Il y a énormément d'affaires dès qu'elles sont un peu médiatisées qu'on nous propose. Mais ce qui va faire la différence, c'est l'angle. Donc, on n'a pas de... On se dit pas, on ferme pas les portes et on veut surtout pas faire d'injonction, parce que je pense que c'est important, surtout quand on est dans un domaine créatif, de pas arriver avec des prescriptions ou de se dire voilà, ça on fera jamais, ça on sait jamais en fait. On sait jamais la réalité, vous êtes jamais à l'abri en fait d'un angle qui vous intéresse. Donc sur ça, on essaie vraiment en fait de garder l'esprit ouvert et de pas arriver avec des ça marche, ça marche pas. En fait, enfin, c'est les choses ne marchent pas jusqu'au jour où elles marchent en fait. Donc c'est toujours pareil.
C'est vrai qu'on parle beaucoup des true crimes comme donc des histoires criminelles comme une sorte de vraiment de phénomène de société. C'est vrai que ça intéresse beaucoup les gens, notamment aux États-Unis. On voit que les documentaires qui sortent sur Netflix sont souvent des true crimes. Un peu moins en France, je trouve. Où on parle beaucoup plus, c'est vrai qu'il y a l'arnaque, des histoires aussi comme Bettencourt, des histoires qui ont vraiment marqué les gens, des histoires de sectes. Est-ce que c'est un choix de pas, selon vous, de pas trop s'ancrer sur les true crimes ? Est-ce que c'est une ligne éditoriale française, selon vous ou...
Ah, c'est marrant, vous êtes le premier à nous dire ça. On est toujours accusé de faire trop de true crime. Non, après, je pense que c'est encore une fois, c'est l'histoire en fait qui guide le choix. Aujourd'hui, on en a fait. On a fait Grégory, on a fait Monique Olivier. Voilà. Donc après, on essaye vraiment d'offrir une diversité d'histoires, de genres. Et on ne fait pas des true crime pour faire des true crime. En fait, est-ce que les true crime racontent quelque chose de plus important ? Grégory, c'est vrai que c'était un des plus grands cold cases que la France ait jamais connu. L'angle qu'on a utilisé, c'est le traitement médiatique, en fait, ce que cette histoire, en fait, a eu à l'époque. Sur Monique Olivier, on raconte, en fait, on raconte pas uniquement le true crime, on raconte aussi un système, la police. Sur Outreau, c'est le système judiciaire. Enfin, on essaye à chaque fois, en fait, de raconter à travers, en fait, un true crime, un fait de société, en fait, plus important. Donc, c'est comme ça qu'on choisit nos histoires. Et après, effectivement, on essaye de... quand on va vers Raël ou Bettencourt, c'est aussi, en fait, des histoires qui ont marqué le public. Donc je pense que les dénominateurs communs dans nos choix, c'est vraiment les histoires qui ont marqué les Français de près ou de loin, des histoires dont on se souvient, mais on ne sait pas exactement comment les choses se sont déroulées. Vraiment, on n'a pas tous les détails, on a un nouveau témoignage. Voilà, on essaie vraiment en fait d'aller sur des histoires, en tout cas, qui peuvent avoir une résonance auprès du public français.
C'est aussi également intéressant d'observer l'après-sortie, je trouve, de ces documentaires, parce que parfois, ça relance des conversations. Par exemple, Raël, ça concerne surtout une génération. Par exemple, moi, à laquelle je ne faisais pas partie, je ne connaissais pas vraiment Raël, donc j'ai vraiment appris à le connaître à travers le documentaire. Et puis, bon, il y a des conversations vraiment qui se relancent, même parfois un peu des polémiques avec l'affaire Bettencourt. Donc, il y avait Ariel Dombal qui avait mis en demeure Netflix, parce qu'ils avaient accusé notamment la plateforme de streaming de l'avoir un peu piégée parce qu'elle se livrait un peu trop sur l'histoire. Comment vous gérez ces situations, pas de crise, mais voilà, un effet parfois un peu boomerang sur les sujets que vous pouvez faire.
Après, ça fait partie de la conversation. Ce qui est sûr, c'est que nous, tous les projets sont menés de manière intègre. Voilà, donc il y a un vrai travail aujourd'hui de nos partenaires producteurs, aussi bien un travail de recherche, d'encadrement, d'accompagnement en fait de nos témoins. Donc après, ça fait partie de la conversation qui souvent nous dépasse. Mais c'est vrai que nous, en amont, on sait que tout le travail en fait qui est mené par les équipes, c'est un travail en fait qui est irréprochable et intègre. Et donc du coup, voilà, après, ça fait partie des conversations. Et en tout cas, on est content que ça puisse... ça raconte cette histoire, elle raconte surtout une époque, elle raconte... plein de choses, et je trouve que c'est intéressant en fait d'arriver en fait à connecter des gens qui ont vécu cette époque et une nouvelle audience et une nouvelle cible en fait qui, comme vous, connaissez pas Raël. Vous dites bah tiens, comment c'était possible à l'époque, est-ce que ce serait possible aujourd'hui, donc il y a tout un contexte aussi et une évolution en fait de la société qu'on peut dont on peut vraiment se faire les témoins en fait quand on voit ces histoires, en se disant bah tiens, c'est comme ça dans les années 70, ça a changé maintenant, et je pense que c'est ce qui aussi intéresse notre public.
Est-ce que ça veut dire que pendant la production, vous êtes aussi entouré d'avocats qui peuvent regarder la série, enfin le documentaire, donner leur avis sur OK, ça on peut le faire et tout, ça c'est possible. Enfin, il y a des avocats qui...
Tout est organisé pour, et tout est, enfin on a des équipes juridiques, avocats. Okay. Après c'est surtout la partie, ça revient surtout au producteur, donc c'est vraiment le producteur aujourd'hui qui nous garantit en fait la bonne exploitation de tous nos projets. Donc ça c'est vraiment la responsabilité aussi du producteur de s'assurer en fait que tout est fait dans les règles de l'art, que tous les contributeurs sont bien traités, que toutes les informations, ça c'est hyper, c'est très important pour nous, l'intégrité journalistique et la vérification des faits, tout est très très bien géré par nos producteurs, pour le coup.
Donc en fait dans les documentaires sur Netflix, il y a à la fois donc les séries documentaires et aussi les films documentaires, je pense que c'est important de le préciser, il y a notamment eu Le Masque. Est-ce que vous avez des... Quel est, selon vous, le plus gros succès qui a été sur Netflix? Je parle surtout des productions françaises, des documentaires français. Celui qui a vraiment, vraiment fonctionné. Je suppose que les chiffres sont moindres que les séries de fiction. Bon, parce qu'on en parlait tout à l'heure, le genre du documentaire est un genre un peu plus niche. Mais quelle est la production qui a le mieux fonctionné?
Le mieux fonctionné, je ne sais pas si on peut dire le mieux fonctionné, parce qu'encore une fois, c'est toujours proportionnel au moment où vous l'avez sorti. Je pense que celui qui a fait la différence, c'est Grégory. Je pense qu'il a vraiment aujourd'hui fait date et dans l'histoire de Netflix et dans l'industrie at large. Je pense vraiment c'est aujourd'hui ça a été une référence. Je pense que ça a fait beaucoup bouger les lignes, notamment dans l'écriture sérielle. Beaucoup en fait étaient sur le documentaire unitaire et ça a rendu possible aujourd'hui un peu plus même auprès de nos concurrents l'écriture sérielle et je pense que c'est vraiment celui qui a fait la différence où les gens se sont dit en fait c'était possible de raconter en fait un documentaire en utilisant les codes de la fiction, de divertir et d'intéresser en fait les gens sur une histoire documentaire de divertir en fait les gens sur une histoire documentaire et surtout en fait de réconcilier les publics. Comme vous le disiez très bien au début, il y avait cette espèce de quel terme je pourrais employer, oui, tout le monde se dit en fait que c'est pour les CSP+, pour une audience élite, que c'est uniquement pour une certaine catégorie de la population d'un certain âge, et là on s'est rendu compte en fait qu'avec une histoire documentaire bien racontée, vous pouvez intéresser aussi bien des jeunes, des vieux, des moins jeunes. Enfin, on peut intéresser tout le monde à partir du moment où l'histoire est bien racontée. Donc, je pense que c'est en ça, ça a été assez précurseur, si je peux dire. Et ça a permis en fait de relancer un peu l'industrie. Ça a permis en fait de vraiment envoyer ce message selon lequel le documentaire n'est pas le parent pauvre qu'on croit.
Donc là, récemment, il y a eu la série documentaire sur Raël, qui est en 4 épisodes, et la série documentaire sur Outreau. Est-ce que vous pouvez nous révéler ce sur quoi vous travaillez en ce moment, ou peut-être une prochaine sortie dans les mois à venir? Je crois savoir qu'en France, en tout cas, il n'y a pas de sortie qui ont été annoncées directement.
Non, rien qui est annoncé. Malheureusement, ouais. Pour le moment, on n'a pas d'annonce à faire. On travaille toujours sur plein d'idées, films ou séries. Donc Tour de France après pour le côté série documentaire sportive qui va arriver avant la fin de l'année. Mais c'est vrai que pour le moment, on n'a pas d'annonce à faire.
Quel est selon vous, depuis votre arrivée ici, le projet dont vous êtes le plus fier?
Alors le plus fier, Monique Olivier. Ouais, l'affaire fournirait dans la tête de Monique Olivier. Non, c'est un énorme travail, du coup, qui a pris énormément de temps. C'était assez complexe Puisque c'est une affaire aussi qui est difficile. Et j'ai trouvé qu'en tout cas, on a réussi à embarquer toutes les personnes impliquées dans cette affaire, les familles des victimes, les personnes en fait, qui se sont battues en tout cas, pour faire condamner le couple Fourniret. Et après, on a eu accès au dernier moment, via l'avocat, à la parole aussi de Monique Olivier. Donc voilà, donc, je pense que c'était... C'était un projet qui était assez périlleux, mais qu'on a réussi à mener à bien, qui a rencontré son public, tout en étant respectueux des familles des victimes.
Est-ce que le plus risqué, c'est aussi Monique Olivier, ou ça a été un autre, peut-être, selon vous ?
Le plus risqué, oui, Monique Olivier était un peu risqué. Je dirais Bettencourt, l'affaire Bettencourt.
Ah ouais,
ouais, l'affaire Bettencourt. Le plus risqué, alors, tout dépend, en fait, où est-ce que vous placez le risque. Moi, c'était le plus risqué en termes d'audience, aujourd'hui. C'est vrai que c'était le risqué parce que l'histoire peut être très vite classée dans une case médiatico-politique avec des gens d'un certain âge. On s'est dit, voilà, comment est-ce qu'on va faire pour intéresser tout notre public à cette histoire. Donc c'était ça, en fait, qui était le plus risqué. Et on a réussi, à travers la forme, à le rendre, cette histoire, très accessible et à emmener, en fait, le public avec nous. Et voilà, je trouve que la stratégie éditoriale a été très... On a mis du temps, c'était assez périlleux, on a eu énormément de conversations avec le producteur à ce niveau-là, mais on a réussi en fait à rendre la forme très divertissante, excitante, et à faire en sorte qu'elle soit au service de l'histoire.
Est-ce que finalement vous étiez assez satisfait de l'accueil du public et du succès de cette série documentaire ?
Ouais, très satisfait. Mmh. Très satisfait, très conversationnel. On a eu des mèmes, on a eu beaucoup de conversations sur les réseaux sociaux. Bon, je trouve que c'est vraiment, pour le coup, c'est un très bon exemple en fait, d'une histoire qui, de prime abord, on peut se dire, voilà, il n'y a qu'une catégorie de la population qui peut s'intéresser à ça. Et au final... Ouais, c'est dans le top, ça a voyagé dans le top dans plein de pays, tout le monde était passionné en fait par cette histoire, entre sa mère et sa fille, en même temps la femme la plus riche du monde, et voilà, donc du coup on a réussi, c'est un exercice périlleux, mais franchement c'est très payant pour nous, et non.
Ce qui était assez intéressant avec l'affaire Bettencourt dans la série documentaire, c'est qu'il y avait assez d'humour, je trouvais, dans le traitement de cette histoire-là, et c'est vrai que les autres documentaires ne prêtent pas forcément... À de l'humour, et là il y avait vraiment un ton qui était un peu malicieux, moi, que j'avais beaucoup aimé. Et d'ailleurs, vous parliez justement de l'accueil un peu hors de nos frontières, hors de la France. C'est vrai que ce sont souvent des histoires très françaises. Justement, est-ce qu'elles arrivent vraiment à voyager, ces histoires ? Je pense surtout à Grégory, à Outreau. Comment ça se passe ailleurs ?
C'est le super pouvoir de Netflix. On est... tous nos documentaires, tous les programmes, en fait, qu'on lance, sont lancés dans le monde au même moment, et c'est un peu ça notre mission, de trouver des histoires qui soient suffisamment fortes, emblématiques, avec une envergure telle qu'au final, en fait, ça va rencontrer son public aussi à l'étranger. C'est vraiment le mandat. Alors, on a un mandat local, donc trouver des histoires françaises, et de trouver les bonnes histoires françaises, c'est pour ça qu'on ne fait pas toutes les histoires françaises, de trouver des histoires, en fait, qui ont vraiment cette dimension universelle, qui fait que quand elle trouve son public en France, elle trouvera son public aussi à l'international, parce qu'au-delà de cette histoire, en fait, qui a marqué le public français, il y a toujours un fait de société, une question plus large, universelle. Sur Bettencourt, c'est la relation entre une mère et une fille, l'héritage, l'argent, donc c'est des sujets en fait universels dans lesquels, quelle que soit son origine, on peut se reconnaître.
Et dernière question, quel est votre documentaire préféré ? Donc ça peut être français, mais aussi...
Mon documentaire préféré sur Netflix, j'hésite entre Wild Wild Country et Don't Fuck With Cats. Peut-être.
On a les deux mêmes. Hein.
Ouais, Don't Fuck With Cats, en fait, j'aime bien parce que j'ai été surprise. C'est vraiment la sensation, ce qu'on appelle le jaw-dropping, en fait, quand t'es toujours la bouche ouverte en se disant, non mais c'est une plaisanterie.
Oui, en fait, oui.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire où ça commence, en fait, c'est tellement surprenant dans l'écriture. Donc c'est très difficile aussi, hein. C'est pour le coup, l'écriture... Donc pour connaître la boîte de production qu'il a fait, pour le coup, c'est un exercice qui est très périlleux. Et d'arriver, en fait, à vous emmener, à vous surprendre, en fait, à chaque épisode et, en fait, à chaque, à chaque ce qu'on dit en fait, Unpeel the Onion, en fait, vous dépliez en fait l'histoire et plus on avance et plus vous avez des couches d'histoire qui se déplient. Tiger King aussi, j'ai beaucoup aimé sur ça. À chaque épisode, vous avez pour le coup des personnages complètement farfelus. Et après, plus récemment, American Nightmare, un rêve américain, la vérité kidnappée. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
Non, je ne l'ai pas vu.
Qui commence un peu à la Gone Girl et qui raconte en fait ce fait de société sur la parole de la femme. Et là, pour le coup, ça, j'adore en fait ce type d'écriture où vous commencez en fait avec, vous pensez en fait que l'histoire c'est ça, et au fur et à mesure en fait que vous dépliez les épisodes, vous rendez compte que l'histoire en fait c'est pas du tout celle par laquelle la porte par laquelle vous finissez, c'est pas du tout la porte par laquelle vous êtes entré en fait dans l'histoire. Donc je trouve ça hyper.
C'est un peu le plan de Don't Fuck With Cats, hein, qui commence comme des personnes en ligne qui aiment les chats et qui veulent attaquer un tueur de chats, qui en fait se révèle, on connaît après son identité, et c'est un peu le twist de la série. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de séries documentaires qui sortent, surtout aux États-Unis. Est-ce que vous avez des chiffres à peu près combien de séries documentaires sortent, peut-être pas par semaine, mais au moins par mois?
Non, pour le coup. Après, c'est quand même, on a une manière de faire les choses de très agnostique. En fait, on n'a pas de, c'est la force du non-linéaire. On n'a pas de quota à remplir, on n'a pas de cases à remplir. Donc, il n'y a pas de cette volonté en fait de nombre ou de quantité. On est surtout sur de la qualité. C'est ce que je dis beaucoup aux partenaires. C'est vrai qu'on fait pas, on n'est pas dans une, on ne cherche pas à combler des cases ou des trous. C'est vraiment de se dire en fait quelles sont les meilleures histoires. Donc si on a les meilleures histoires, on les sort. Si on n'en a pas, on n'en sort pas, quoi. Enfin, c'est vraiment de se dire, on veut vraiment que tout ce qu'on fait soit vu par le plus grand nombre. Et pour ça, il faut bien choisir des bonnes histoires et des bonnes manières de raconter les histoires. C'est quand même assez difficile. C'est un temps qui est très long. Vous comptez entre 2-3 ans à partir du moment où vous commissionnez un titre et où il voit le jour en fait sur le service. Donc c'est pour ça qu'en fait on doit choisir des bonnes histoires. On prend pas des histoires qui sont juste dans l'actualité, on prend pas des news, de l'actu chaude, on prend vraiment en fait des histoires qui ont de la matière, des rebondissements, qui sont vraiment bigger than life, avec des grands personnages. Donc voilà, donc du coup, et ces histoires-là, il n'y en a pas tant que ça au final. Donc,
C'est une bonne conclusion. Bon, merci en tout cas, Dolores Emile, de m'avoir accordé votre temps. Vous pouvez retrouver tous les épisodes du podcast Spotlight sur toutes les plateformes de streaming. Et à la prochaine.
À bientôt.
Allociné.